Invité vom Dach beim Maurice Molitor aus Loden Antoine Pacou.
Hennas Sozialgeograf schafft um Forschungsinstitut Lise, er beschäftigt sich dort hinter Jurem am Thema Bauland zu Lützebüch. Monsieur Pacou, bonjour.
Bonjour.
Vous co-signez une étude publiée récemment dans une revue spécialisée sur le sujet du foncier à Luxembourg. Le foncier qui est sans doute l'une des clés pour résoudre le problème de l'immobilier dans ce pays, pour autant qu'on arrive à le mobiliser. C'est un peu ça votre conclusion.
Oui, absolument. On est sur un système que j'appelle de double concentration, où on a d'un côté des propriétaires fonciers qui détiennent beaucoup de terrain et de l'autre un petit groupe de gros promoteurs immobiliers qui semblent gérer ce foncier de manière à accumuler du patrimoine foncier. Ouais.
Ouais. Bon, des terrains constructibles, il y en a assez, mais ils ne sont pas mis sur le marché.
C'est un petit peu ce qu'on peut conclure quand on regarde les chiffres de l'Observatoire de l'Habitat qui montrent qu'on a plus de 2000 hectares de terrains constructibles qui sont encore libres de construction. Et ces terrains, on a estimé qu'ils pourraient être utilisés pour construire des logements pour les 10 prochaines années sans problème.
Le marché foncier à Luxembourg est un marché très statique avec peu de transactions malgré une forte demande. Mais le problème, justement, c'est ce que vous venez d'évoquer. Du côté de l'offre, il n'y a que très peu d'acteurs.
Je pense qu'on est sur une structure du foncier qui vient vraiment d'un héritage de l'ère encore rurale, où on avait des grandes familles paysannes qui détenaient l'essentiel des terrains. Et grâce au système réglementaire qui favorise un petit peu la rétention et la transmission de terrain entre les générations, on est encore confronté aujourd'hui à la même structure foncière.
Oui. Donc il n'y a que très peu d'acteurs du côté de l'offre, et c'est vrai pour les deux catégories de propriétaires que sont d'un côté les particuliers et d'un autre les sociétés. Dans une étude pour l'Observatoire de l'Habitat parue en 2016, vous avez révélé que le nombre de propriétaires de terrains constructibles à Luxembourg s'élevait à quelque 16 000 personnes physiques et plus ou moins 750 sociétés. Cela peut paraître beaucoup encore, mais en analysant de plus près ces chiffres, on se rend compte que du côté des particuliers, le top 10%, donc à peine 1600 particuliers, détenaient à eux seuls plus de 60% des surfaces constructibles en main privée. Et du côté des sociétés, la quote-part détenue par le top 10% était encore plus impressionnante avec 75% pour 75 entreprises. C'est impressionnant. Ces chiffres n'ont pas trop bougé depuis lors, je suppose.
On n'a pas de chiffres plus récents. On est en train de travailler sur le recensement du potentiel foncier pour l'année 2020-2021. Et cette fois-ci, on aura plus de détails sur les noms des entreprises qui détiennent des terrains. Donc, on pourra aller beaucoup plus en profondeur pour analyser la part des promoteurs, la part des investisseurs, etc. Donc, on pourra en dire un peu plus à l'automne là-dessus. Mais pour le moment, on reste vraiment sur ce constat. Et comme le foncier est un marché très statique, il n'y a aucune raison de penser que ces chiffres aient beaucoup bougé entre-temps.
Donc, vous allez révéler des noms.
En tout cas, pour les entreprises, oui. Pour les personnes physiques, là, on est vraiment tenu à l'anonymat. On ne reçoit que des codes anonymes. On n'a aucune information sur qui sont ces propriétaires personnes physiques. Mais sur les entreprises, on pourra en dire un peu plus.
Mais est-ce que pour les recherches que vous voulez faire, vous avez droit aux accès dont vous avez besoin? Vous ne rencontrez pas de problème particulier pour vos recherches?
Non, je dois dire que au Luxembourg, les données que je mobilise surtout sont des données qui viennent de l'administration du cadastre, de la topographie. Et là, on a une très bonne relation de travail basée sur des principes qui sont en accord avec le RGPD, donc le règlement général sur la protection des données. Et on obtient des informations qui nous permettent d'aller assez loin, comparé à des pays voisins sur l'analyse de la propriété.
La forte concentration en matière de propriété, justement, du foncier n'est peut-être pas un problème en soi, mais elle en devient un parce qu'elle permet justement à une poignée de propriétaires de faire la pluie et le beau temps.
Alors ça, je pense que la concentration, d'un côté, ça c'est une donnée... C'est une donnée, disons, objective. Après, ce qui vient vraiment créer des effets qui sont un peu problématiques, c'est l'alliance entre cette concentration et un contexte réglementaire qui donne beaucoup de latitude aux acteurs privés sur la production de logements. Donc là, je pense surtout à un très faible impôt foncier qui ne pénalise en rien la rétention foncière et qui permet à ses propriétaires de décider à quel moment ils vont vendre ou construire leur terrain. Donc, c'est des gens qui ont reçu la commune, à travers le plan d'aménagement, une plus-value extraordinaire sur leur terrain et ne doivent en rien et ne sont tenus en rien. Ils n'ont rien à rendre de ce cadeau qui a été fait par la collectivité, sachant que le prix du terrain est créé aussi par l'activité de toute la société. Donc, il y a cette rétention foncière qui est en fait, qui n'est pas pénalisé. Mmh. Et donc, dans la perspective d'un propriétaire foncier, il n'y a donc vraiment aucune raison objective de vendre.
Et pourquoi y a-t-il cette rétention ? Ben, pour garder le contrôle du prix, en quelque sorte. C'est ça la motivation.
Alors, c'est peut-être aller une étape trop loin dans l'analyse. C'est vrai que là, il faudrait peut-être avoir des données complémentaires, des données d'entretien, essayer de recouper un petit peu. On est plutôt sur des stratégies, je pense, individuelles. Plutôt que, en tout cas chez les personnes physiques, chez des stratégies de type cartel, parce que ce sont des familles qui sont à différents endroits dans le pays et qui ne sont pas nécessairement en coopération ou en liaison, je pense. Mais c'est que chaque famille qui détient ces terrains gère les terrains de façon à maximiser leur extraction de valeur de ces terrains. Et mis bout à bout, ces stratégies de maximisation individuelle créent un blocage, parce que pour chacune de ces familles, il n'y a pas d'intérêt nécessairement à vendre tout d'un coup ou de vendre beaucoup de terrains. Donc chaque famille gère un petit peu les terrains, soit en les gardant pour le futur, soit en les développant petit à petit. Mais mis bout à bout, ça crée très peu de logements finalement.
Mais est-ce qu'on peut le leur reprocher d'un point de vue économique? C'est complètement logique. Vendre trop à la fois et trop tôt serait une mauvaise décision.
Absolument. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut il faut monter un petit peu de perspective et regarder un petit peu à qu'est-ce qui, dans le contexte réglementaire, encourage ou en tout cas ne pénalise pas de tels comportements. Ouais. Donc là, c'est vraiment essayer de regarder comment est-ce qu'on pourrait créer des incitatives pour vendre, pour développer plus de logements.
Il faudrait donc que l'État intervienne en recourant à des mesures fiscales. Vous avez déjà évoqué l'impôt foncier. Il y a d'autres instruments, l'impôt sur la fortune, l'impôt sur les successions, sachant toutefois qu'une telle mesure ne toucherait que les particuliers et pas les sociétés.
Oui, ça c'est un petit peu la difficulté. Les successions et l'exonération des successions en ligne directe a joué un rôle important dans la transmission de ces terrains au fil des générations qui a créé la situation qu'on a aujourd'hui où on a le même niveau de concentration qu'il existait au 19e siècle. C'est tout à fait vrai qu'il faut garder une équité fiscale entre les personnes physiques et les entreprises qui détiennent des terrains. Donc, regardez aussi pour les entreprises s'il ne faut pas essayer de taxer les cessions de parts au sein d'instruments comme des SCI qui sont utilisés par certains propriétaires pour gérer leur patrimoine.
Pour faire de l'impôt foncier, un élément vraiment dissuasif ou incitant à la vente des terrains, de quel pourcentage devrait-on réfléchir?
Alors là, c'est peut-être pas vraiment mon métier. Je suis pas fiscaliste. Tout ce qu'on sait, c'est que les terrains prennent à peu près 10% de valeur par an. Et ça, c'était avant la grosse poussée des prix qu'on a connue ces dernières années. Donc, je m'attends à ce qu'on soit au-dessus de 10%. Donc, ça vous donne un sorte d'aperçu de quel niveau devrait être utilisé. Mais bon, ça c'est vrai que c'est pas mon métier non plus.
Ouais. Bon, on a parfois du mal à comprendre pourquoi le monde politique hésite tellement à décider de telles mesures fiscales. Finalement, elles ne toucheraient qu'un infime pourcentage des citoyens et par conséquent des électeurs.
Alors, c'est là que c'est important de réfléchir à mettre en place peut-être une franchise ou un niveau minimum de patrimoine foncier à partir duquel s'enclencherait un impôt foncier ou un impôt sur les successions. Donc, je pense qu'il est important de ne pas cibler les propriétaires d'une ou deux parcelles qui veulent les léguer à leurs enfants. C'est tout à fait compréhensible dans le marché existant. Si on a du foncier, on veut pouvoir l'utiliser pour aider les siens. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Après, si on détient un terrain de foot, de terrain constructible, c'est autre chose parce que là, on ne peut pas arguer d'une stratégie seulement familiale.
Il n'y a cependant pas que la fiscalité pour intervenir. En analysant pour l'étude qui vient d'être publiée 71 gros projets de logement réalisés au cours des 15 dernières années, vous vous êtes rendu compte que souvent les propriétaires des terrains développent eux-mêmes les projets immobiliers réalisés sur ces surfaces. En quoi est-ce que cela pose problème ?
Alors ça, c'est une particularité au Luxembourg que des particuliers peuvent faire toutes les démarches liées à un plan d'aménagement particulier pour mettre en place des parcelles, des lots sur leur terrain qui peuvent après être vendus ou construites. Alors, ce n'est pas nécessairement un problème. D'une certaine manière, ça pourrait inciter des personnes à mettre des terrains en construction. Après, le souci, c'est que lié à tous les autres facteurs réglementaires qui donnent un grand pouvoir de décision aux particuliers et aux privés sur le rythme de la production de logements, c'est encore une manière de permettre à ces acteurs privés de profiter de leur terrain de manière assez individuelle, dans le sens qu'il n'y a aucune obligation, par exemple, il n'y a aucune limite de temps dans laquelle quelqu'un peut développer son terrain constructible, comme on le voit dans certains pays où, par exemple, si le terrain est rendu constructible et qu'on reçoit une énorme plus-value, bon, on a un certain laps de temps pour profiter de ce cadeau, sinon le cadeau est retiré. Ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile à discuter ici.
Oui. Vous estimez également que les communes pourraient faire davantage qu'elles ne font. Quels sont les instruments dont ces communes disposent ?
Alors ça, c'est vrai que s'il y a un niveau auquel il existe déjà des outils assez efficaces, comme l'impôt sur les terrains constructibles, donc les terrains B6, comme le droit de préemption, comme... Donc il existe certaines mesures, comme les taxes sur les logements vacants, pardon. Il existe certaines mesures qui pourraient être mises en place assez rapidement, qui sont déjà dans la réglementation. Après, il n'y a qu'un très petit nombre de communes qui ont utilisé ces outils pour le moment.
Et pourquoi ?
Alors, on peut invoquer certaines raisons. La proximité à l'électorat et donc une certaine réticence à prendre des mesures qui pourraient impacter leur électorat de manière financière. On pourrait aussi invoquer le fait qu'il y a beaucoup de cumuls de mandats au niveau communal et au niveau national qui pourraient un petit peu venir créer des mauvaises incitatives. Donc on peut penser à plusieurs raisons. Après, il faudrait étudier ça de manière plus en détail. Et je pense que de manière générale, ce qui manque vraiment dans notre travail pour le moment, c'est une discussion approfondie avec des propriétaires fonciers pour essayer de comprendre aussi leur motivation et pourquoi est-ce qu'ils ne vendent pas et d'essayer de réfléchir avec eux sur comment on pourrait mobiliser plus facilement des terrains. Et ça, je pense que c'est un avantage qui existe pour le moment au secteur privé, c'est qu'ils ont un réseau très développé de prospecteurs qui vont toquer à la porte des propriétaires fonciers pour leur demander s'ils veulent vendre. Et du côté des pouvoirs publics, il n'existe pas une telle force de pour convaincre les propriétaires fonciers. Donc je pense qu'il est important à la fois pour les chercheurs et pour les pouvoirs publics de s'intéresser plus profondément aux motivations des propriétaires fonciers.
Et vous pensez que les propriétaires seraient disposés à s'ouvrir et à faire part de leurs motivations ?
Alors ça, c'est une question ouverte. Moi, je pense qu'il faut tenter. Moi, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient moins enclins à parler avec des chercheurs qu'avec des promoteurs privés. Donc, moi, je suis prêt à tenter l'expérience.
Vous êtes plutôt optimiste. En tout cas, vous êtes clair, il y a assez de terrains constructibles dans ce pays. Vous l'avez dit au début de notre entretien et vous déconseillez même d'agrandir les périmètres de construction. Pourquoi ?
Alors, agrandir le périmètre, ça serait dire on a fait une politique jusqu'à présent d'être assez généreux avec les périmètres. Elle n'a pas marché, mais faisons-le encore, continuons à le faire. Et je pense qu'à chaque fois qu'on agrandit le périmètre, on ne fait que créer des nouveaux multimillionnaires qui, comme ceux qui sont déjà dans le périmètre, n'ont pas nécessairement de raison à vendre. Donc moi, je pense que c'est une fausse bonne idée parce que ça ne change en rien la donne actuelle qui, on le sait, et bloqué.
Ich habe geschwärzt mit meinem Antoine Pacou, engem von den Autoren von enger Lisère-Etude, zusammen noch mit der Uni LU, Ivert Bauland, hier zu Lützburg, Monsieur Pacou. Merci beaucoup.
Merci à vous.